Chapitre 1. La pleine conscience. Si vous attendez devant une porte, vous attendez devant une porte. Si vous vous disputez avec votre femme, vous vous disputez avec elle. C'est ce qu'on appelle la pleine conscience. Si vous attendez devant une porte et que vous en profitez pour vous disputer mentalement avec votre femme, ce n'est plus de la pleine conscience. C'est juste idiot. Joschka Breitner, Ralentir sur la voie de dépassement, manuel de pleine conscience pour cadre dirigeant. Avant toute chose, je ne suis pas quelqu'un de violent. Au contraire, je ne me suis jamais battu de ma vie, par exemple. Et je n'ai tué mon premier homme qu'à 42 ans. Ce qui, dans mon milieu professionnel actuel, est plutôt tardif. Bon, il est vrai qu'une semaine après, j'en étais déjà à presque 6 meurtres. J'imagine que ça doit vous choquer. Mais tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour de bonnes raisons. C'est la conséquence logique d'un cheminement vers la pleine conscience, pour concilier travail et vie de famille. La première fois que j'ai eu affaire à la pleine conscience, ça m'a vraiment mis le stress. Ma femme, Katharina, voulait m'obliger à me détendre, pour que je travaille sur mon manque de disponibilité, de fiabilité et mes valeurs tordues, pour redonner une chance à notre mariage. Elle voulait récupérer le jeune homme équilibré, ambitieux et plein d'idéaux dont elle était tombée amoureuse 10 ans plus tôt. Si à un moment quelconque, j'avais osé dire à ma femme que j'aurais bien aimé moi aussi retrouver le corps dont j'étais tombé amoureux 10 ans avant, notre mariage se serait terminé là. Avec raison, évidemment. Le temps peut bien sûr laisser des traces sur le corps d'une femme, mais pas sur l'âme d'un homme, apparemment. Du coup, au lieu que ma femme aille chez le chirurgien esthétique avec son corps, j'ai emmené mon âme à un entraînement à la pleine conscience. À ce moment-là, la pleine conscience ne représentait pour moi qu'une énième ressucée d'un même courant ésotérique réchauffé une fois tous les 10 ans et refourgué aux gens comme neuf, sous couvert d'une nouvelle appellation. La pleine conscience, c'était du training autogène sans s'allonger, du yoga sans contorsion, de la méditation sans s'asseoir en tailleur. Ou bien, selon le magazine pour manager que ma femme m'a balancé un jour au petit déjeuner, la pleine conscience est l'attention neutre et entière portée à l'instant présent. Voilà une définition qui me paraissait aussi lisse et insignifiante que les galets empilés les uns sur les autres pour former des tours par des vacanciers désœuvrés sur la plage. Me serais-je lancé dans cette aventure de la pleine conscience s'il n'avait été question que de nous deux, de ma femme et de moi? Je ne sais pas. Mais nous avons une petite fille, Émilie. Et pour elle, j'aurais accepté d'aller de Sodome à Gomorre s'il y avait eu dans une de ces villes une chance pour nous et notre famille. Un jeudi soir de janvier, j'avais donc rendez-vous avec mon nouveau coach de pleine conscience. Lorsque je sonnais la lourde porte en bois de son cabinet pour parler, entre autres, de gestion du temps, j'avais déjà 25 minutes de retard. Le coach avait son bureau dans un des beaux quartiers de la ville, au rez-de-chaussée d'un immeuble ancien entièrement rénové. J'étais tombé sur son prospectus dans l'espace spa et bien-être d'un hôtel 5 étoiles. Ses tarifs, je les connaissais d'Internet. Quelqu'un qui vidait les poches de ses clients pour leur apprendre à se relâcher devrait largement être capable de digérer des retards prépayés en méditant dessus. C'était du moins ce que je pensais. Mais après avoir sonné, il ne se passa d'abord rien. Jusqu'au moment où le gourou de la décontraction refusa d'ouvrir la porte, j'étais plutôt tranquille, mon retard étant tout à fait excusable. J'étais avocat de droit pénal et avais été retenu pour une audience en fin d'après-midi. Un collègue de mon client principal, Dragan Sergovic, avait été pris dans une bijouterie alors qu'il s'apprêtait à choisir une bague de fiançailles. Le problème, c'est qu'au lieu d'argent, il n'avait qu'un pistolet chargé sur lui. Les bagues qu'on lui avait proposées lui ayant déplu, il frappa le bijoutier à la tempe avec son arme. Ce dernier avait pris soin d'activer l'alarme silencieuse, et la police se retrouva face à un bijoutier gisant à terre et à un homme qui ne montra aucune résistance à la vue de 2 pistolets mitrailleurs braqués sur lui. Les policiers l'emmenèrent au poste et me prévinrent moi ainsi que le juge d'instruction. Si j'avais gardé mes idéaux de jeune étudiant en droit, j'aurais pensé qu'un cassos de ce type méritait entièrement d'être retenu en détention provisoire jusqu'à son procès, puis de croupir en tôle pendant plusieurs années. Avec ma longue expérience d'avocat défenseur de cassos, il me fallut 2 heures pour que ce débile soit libéré. Je n'étais donc pas juste en retard à ma séance de coaching, j'étais en retard, couronné de succès. Et si Monsieur Décontraction voulait bien ne pas perdre le reste de l'heure à bouder, je pourrais lui décrire la raison de ma réussite. Le jeune homme avec un faible pour les achats à main armée avait 25 ans et vivait encore chez ses parents. Il n'avait pas d'antécédents en matière de délit avec violence, seulement des condamnations liées à la drogue. Il n'y avait ni danger de fuite ou de récidive, ni risque de dissimulation. De plus, il respectait les valeurs sociales du mariage et de la famille. C'était bien pour ça qu'il s'était rendu à la bijouterie. En dérobant une bague, il exprimait sa volonté de fonder une famille. Ok, pour le bijoutier à l'hôpital et les policiers en patrouille, ça ne devait pas être simple de comprendre qu'une personne manifestement criminelle pourrait, le soir même, refaire le coq devant ses amis et se moquer de l'État. De ce point de vue-là, même ma femme trouvait mon travail souvent assez douteux. Mais ce n'était pas à moi d'expliquer notre système judiciaire aux gens. Mon boulot, c'était d'utiliser ce système dans les règles de l'art. Je gagnais mon argent en faisant du bien à des gens mauvais, point. Et je maîtrisais le jeu parfaitement. J'étais un excellent avocat de la défense, employé dans un des cabinets d'affaires les plus renommés de la ville, opérationnel 24 heures sur 24. C'était stressant, c'est clair, et difficilement conciliable avec la vie de famille. C'est pourquoi je me retrouvais devant la porte de cet expert en pleine conscience, qui ne me laissait pas entrer. Ma nuque se raidit. Il faut dire qu'en contrepartie du stress, j'avais droit à pas mal de choses. Une voiture de fonction, des costumes sur mesure, des montres de luxe. Avant ça, je n'avais jamais vraiment accordé beaucoup d'importance au signe extérieur de richesse. Mais quand vous représentez le crime organisé, vous vous devez d'en afficher. Ne serait-ce que parce que, en tant qu'avocat, vous êtes le signe extérieur de richesse de votre client. On me donna un grand espace de travail, un bureau design, et pour ma famille, ma fille adorée, ma superbe femme et moi, un salaire mensuel à 5 chiffres. Bon, une coquette somme à 4 chiffres partait dès le départ dans le crédit de la maison. Une maison dans laquelle vivait une enfant merveilleuse que je ne voyais jamais à cause de mes horaires de travail. Auprès d'une mère aimante, avec laquelle je ne faisais plus que me disputer. Moi, parce que je rentrais énervé du boulot, dont je ne pouvais rien dire à ma femme parce qu'elle le détestait, et elle parce qu'elle avait dû quitter un poste exigeant de directrice de département dans une assurance pour passer ses journées à s'occuper seule de notre petite fille. Si notre amour était une plante sensible, nous ne l'avions de toute évidence pas assez soignée au moment du rempotage dans la grande jarre familiale. Bref, on était comme beaucoup de jeunes familles ayant réussi au fond du trou. Afin de retrouver un équilibre entre la famille et le boulot, et sachant que j'étais le seul d'entre nous à disposer des deux, ma femme me choisit pour que je fasse un travail sur moi. Elle m'envoya chez le coach de pleine conscience. Qui n'ouvrait pas. Le con. Les tensions dans ma nuque commençaient à se manifester par de légers craquements à chaque mouvement de tête. Je sonnais une nouvelle fois la lourde porte en bois. Elle semblait avoir été fraîchement vernie. Elle en avait l'odeur, en tout cas. Enfin, la porte s'ouvrit. Un homme se tenait là, comme s'il m'avait guetté tout ce temps, attendant la deuxième sonnerie. Il avait quelques années de plus que moi, il devait approcher la 50aine. Nous avions rendez-vous à 20h, dit-il simplement avant de se retourner et de s'en aller dans le couloir sans un mot de plus. Je le suivis dans un bureau chichement meublé à la lumière indirecte. L'homme semblait austère, un corps sec sans un gramme de graisse. Le type de personne qu'un gâteau à la crème ne ferait pas bouger d'un iota, même si on le lui injectait sous la peau.